Le livre s'intitule « Redonner la santé à toute la famille, l'approche 180 contre l'obésité ». C'est le nouveau livre de la médecin pédiatre spécialisée en obésité chez les enfants et chez les adolescents, Dr Julie Saint-Pierre. Elle est au bout du fil. Bonsoir, Dr Saint-Pierre.
Bonsoir, M. Lagacé.
Qu'est-ce que les parents vont apprendre sur l'obésité chez les enfants en lisant votre livre?
Ben, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont d'abord apprendre à se déculpabiliser. Ils vont avoir l'opportunité de recevoir une information chez eux, dans leur salon, à un moment où est-ce que habituellement on est plus disposé à lire, à recevoir des informations, puis à faire germer une réflexion. Donc, ils vont apprendre une multitude de trucs qui s'appliquent pas seulement aux enfants, mais à monsieur, madame, tout le monde, pour exemple, apprendre à aimer certains aliments qui ont moins la cote, ou c'est quoi nos recommandations en termes d'activité physique, de temps d'écran, comment on peut changer nos habitudes de vie dans une société où tout va vite, où il y a énormément de stress de performance.
OK, vous dites, et vous n'êtes pas la seule spécialiste à dire ça, là, que l'obésité infantile, c'est une pandémie négligée, que depuis le début des années 80, l'obésité là arrête pas de se répandre. On parle d'une hausse de 400% au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé, Dr Saint-Pierre, depuis 40 ans dans nos cuisines?
Ben, en fait, je pense qu'on a perdu beaucoup d'habileté culinaire. Hein? On cuisine moins. On est, comme je le disais, on est pressé. On va acheter des choses qui sont ultra transformées et très riches en différents composés comme le sucre, le gras, le sel. Veut ou veut pas, ben malheureusement, le budget qu'on met sur l'épicerie depuis les 30 dernières années continue à diminuer tout le temps au profit du budget qu'on augmente sur les trucs électroniques nécessaires à toute la famille, même pour l'école en ligne de nos enfants. Donc, on met moins d'argent sur l'alimentation, on est plus sédentaire, on dort moins bien, on consomme plus d'écran. On bouge moins, le mouvement est vraiment diminué dans l'ensemble de la population, pas juste ici là, partout. Et on a augmenté, on mange trop, puis on mange des choses qui sont trop transformées.
Il y a un médecin d'Ottawa là qui est un spécialiste de l'obésité et lui a beaucoup écrit là-dessus, il a beaucoup publié là-dessus. Puis ce qu'il disait, c'est, écoutez, c'est vrai qu'on bouge moins, mais on mange trop. Puis lui,
exactement.
Ce qu'il dit, c'est entre la fourchette puis les espadrilles, là, et la fourchette va toujours gagner.
Oui, puis l'autre chose, c'est plus compliqué que ça. Hein. Faut prendre ça avec un bémol, là. Il y a, surtout avec la pandémie, parce que on a aussi maintenant beaucoup plus de connaissances sur le cerveau. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a certains aliments là qui vont nous plaire plus que d'autres. Puis pour certaines personnes, cet aliment-là va devenir presque une addiction. Puis c'est vrai, entre autres, avec le sucre, où est-ce que plus on en mange, plus on en veut. Puis ça s'explique maintenant avec des neurohormones qui sont surstimulées dans notre cerveau.
Ah, mais ça c'est intéressant. Pour vous, le sucre, c'est comme une dépendance, un peu comme, je sais pas, une drogue ou le tabac.
Absolument, puis c'est drôle parce qu'il y a un journaliste qui me disait, moi, il dit, j'ai pas eu une difficulté du tout à cesser de prendre de l'alcool dans le mois de février, mais j'avais décidé de combiner avec l'arrêt du sucre, puis du sucre, j'ai pas été capable. Donc, c'est vrai, ça arrive tout le temps, il y a des gens, c'est variable d'une personne à l'autre, c'est prédéterminé en partie génétiquement. Donc, on peut pas dire aux gens, c'est juste une question de motivation ou mangez moins, faites plus de sport. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis dans le livre, on le dit bien, hein, on met en valeur le travail exceptionnel que font nos psychologues ou même nos nutritionnistes, hein, qui ont fait des nouvelles formations. Puis où est-ce que parfois, ils sont obligés d'aider les gens à rééduquer leur alimentation.
Mais tantôt, quand je vous parlais là, du docteur Friedhoff à Ottawa,
oui.
le combat entre les espadrilles puis la fourchette, c'est beaucoup plus facile de manger, d'accumuler des calories que de les brûler quand même.
Ben, en fait, les calories, c'est out. On devrait plus parler de ça, là. Mais c'est vraiment, oui, des fois, il y a des gens que ça va être beaucoup plus facile, hein. C'est, faut pas penser que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très motivés naturellement à bouger puis qui auront même, ils se reconnaîtront pas là-dedans dans ce que vous dites. Et pour eux autres, par contre, ils vont manger, tu sais, toutes les combinaisons sont possibles, parce que même votre motivation, elle est en quelque part prédéterminée dès votre enfance. Là. Ouais. Donc, ça dépend de l'environnement qui est autour de vous. Vous pouvez avoir le goût d'aller faire du sport, mais bon, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter de l'équipement, ben oui, ça se peut que vous restez chez vous, devant votre télé, à manger davantage, parce que ça augmente les fringales. Donc, il faut pas généraliser quand on dit que la fourchette va toujours gagner sur les espadrilles.
OK, dites-moi, vous en avez traité des centaines d'enfants là qui oui. arrivent dans votre bureau, des enfants, des ados qui souffrent d'obésité. L'enfant qui est obèse, là, il souffre de quelle façon?
Ben, il souffre psychologiquement d'abord et avant tout, hein. C'est bien plate, là, mais les gens se rendent pas compte à quel point il y a une souffrance qui est induite par notre société dès la tendre enfance. Puis des enfants qui sont laissés pour compte sur un banc parce qu'ils gênent les autres amis dans un module de jeu et que l'éducatrice, par exemple, puis ça, c'est des histoires vraies là, que les parents m'ont racontées. Ben, reste assis sur le banc parce que tu vas pas assez vite, puis les amis peuvent pas passer quand tu es là. Donc, des choses atroces qui vont diminuer l'estime de soi très, très tôt dans la vie de ces jeunes-là. Et nous, il nous arrive souvent là, d'intimider, les parents ne le savent pas, puis ça dure depuis très longtemps. D'ailleurs, on intimide plus, on va plus intimider les enfants sur la base de leur image corporelle en présence d'obésité que en fonction de leur orientation sexuelle, de leur religion. C'est vraiment catastrophique, hein. Il y a une souffrance émotive qui est non négligeable et qui nécessite vraiment un travail avec plusieurs spécialistes.
Vous savez, docteur Saint-Pierre, qu'il y a des gens qui vont vous entendre dire ça, là, des gens qui sont dans la mouvance, disons, des militants contre la grossophobie, et qui vont dire ça, ce discours-là, là, ça culpabilise les gens, il faut s'accepter comme on est. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben moi je défends la diversité corporelle, puis je suis d'accord avec ces gens-là que on ne se définit pas par la maladie, hein. On va pas empêcher quelqu'un de travailler parce qu'il est hyper tendu ou qu'il a une prostate enflée. Mais c'est la même chose avec la maladie de l'obésité. Ce qui a créé en fait une confusion dans la population dans les dernières années, c'est qu'on avait défini sur le plan scientifique des gens qui souffraient d'obésité, qui faisaient des études là, et on faisait un bilan sanguin à ces gens-là à un moment précis dans leur vie, puis le bilan était normal. On dit que c'est à peu près 10 à 30% des gens que quand on fait une première prise de sang, ça va revenir normal. Mais l'affaire, c'est que si on les suit dans le temps, ce 10 à 30% de gens-là vont finir par développer des complications. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est probablement une fausse entité qu'on a décrite, et que c'était particulièrement plus des gens qui avaient une maladie encore trop récente. Tu sais, puis il faut se dire les vraies affaires, là. Regarde, on les chiffres de la COVID, là. Si tu souffres d'obésité selon les critères qui sont définis, ça augmente ta chance de 46% d'attraper la COVID. Ça augmente de 113% ton risque d'être hospitalisé, de 75% d'aller aux soins intensifs, de 50% de mourir. Je peux continuer comme ça pendant des heures. T'as le droit de pas croire que c'est une maladie. Comme il y a des gens qui ont pas cru que c'est la COVID, elle existait. C'est leur droit. Mais malheureusement, il y a une souffrance qui est associée à ça, qui dépasse beaucoup les complications dont on parle.
Ce discours-là, Dr. Saint-Pierre, on l'entend chez des militants, des militantes anti-grossophobie.
Oui.
J'entends ça, moi, c'est que être obèse, ça ne veut pas dire que tu es malade. Tu peux être en santé.
Mais,
ce qui est sans doute vrai, mais pas totalement vrai, non?
C'est pas totalement vrai, puis vous regarderez le 4 mars, hein, ça va être la journée mondiale de sensibilisation à la maladie, et la France, la présidente de l'association du collectif des grosses personnes en France m'a contactée, puis elle m'a demandé de donner un avis sur leur publicité qui va être émise à la grandeur de la France dans les radios, à la télé, et attachez tous votre truc avec des broches, ça fesse. Puis oui, on s'attaque au fait que c'est une maladie et l'association là-bas sollicite qu'on prenne soin de ces gens-là. C'est vrai qu'on a plein de préjugés. C'est normal que les gens se sentent pas acceptés dans la société. Mais là, il va y avoir une déclaration beaucoup plus prononcé face à la maladie et de dire « Prenez juste soin de vous. On est là. Demandez de l'aide. »
Le message est lancé. Merci beaucoup, Dr. Saint-Pierre.
Merci.